Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteur, série. L'émission du site de référence de la fantasy francophone.
Salut à tous et bienvenue pour ce 93e podcast d'Elbakin.net, le podcast où l'on traite de la fantasy sous toutes ses formes. Je suis Giggs et avec moi pour discuter du sujet de ce soir, nous avons Gilles Hossen.
Bonsoir.
Et Akalabes.
Hello, salut à tous.
J'espère que vous êtes chaud bouillant, messieurs, parce que cette émission va aborder une actualité brûlante. Et non, nous n'évoquerons pas la réforme des retraites, bien que, d'une certaine manière, c'est aussi un sujet qui pourrait s'englober, parce que mais on n'avait juste pas envie de brasser très large et de faire une émission de 19h. Et comme on est un podcast d'imaginaire bien réel, je ne sais pas si vous l'avez, ça va, imaginaire, bien réel, bref, ce ne sera pas le podcast des meilleures blagues. Non, en fait, dans cette émission, on va surtout aborder ce qui nous concerne essentiellement, donc on va parler bien évidemment de l'irruption de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, et notamment quelles répercussions déjà présentes elle a pu amener, notamment dans le secteur de l'illustration, dans le secteur de la traduction, dans le secteur littéraire aussi, dans le secteur culturel. Bien qu'aucun d'entre nous ne soit l'héritier de Nostradamus, on va également essayer de discuter de ce que l'IA peut et apportera probablement dans un avenir proche et moins proche. Alors, bien entendu, n'hésitez pas, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, à nous dire ce que vous pensez également de ce sujet. Nous sommes toujours friands de vos avis, que ce soit sur le forum du site elbakin.net ou dans les commentaires que vous nous laissez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. J'en profite pour vous dire également que si ce podcast vous plaît, si vous voulez soutenir les podcasts d'Elbakin.net, n'hésitez pas à aller leur mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré, ainsi qu'un commentaire, comme ça, ça aide toujours ce podcast qui, certes, existe depuis un certain nombre d'années, mais peut toucher, pourquoi pas, un autre public. Également, si vous souhaitez apporter encore plus de soutien à Elbakin.net, vous pouvez aussi faire un don sur la plateforme AlloAsso pour nous aider à garder la lumière allumée, pour nous offrir un café lors de ces longues nuits passées à écrire les scripts de ce podcast, par exemple. Eh bien, vous pouvez faire ce don sur la plateforme AlloAsso que vous trouverez sur la page d'accueil du site Elbakin.net. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc, un peu de contexte d'abord, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce que je pense que vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, 2022, ça a quand même marqué un petit tournant à ce niveau-là avec l'arrivée des premières intelligences artificielles qui sont vraiment tournées vers le grand public, même si la plupart sont encore en phase bêta. Mais que ce soit les DALL-E, les Midjourney pour réaliser des illustrations ou encore le tout récent et assez bluffant ChatGPT, mais l'intelligence artificielle, elle est désormais capable de générer à minima soit des illustrations, soit carrément du texte, soit de la traduction. Et pour le coup, ce qui semble être un lointain fantasme de fans de science-fiction, et c'est aujourd'hui à la portée du quidam moyen de vous, de moi, de nous, pour peu qu'on dispose d'une connexion Internet. Donc concrètement, comment ça marche ces IA ? Vous avez une idée, vous ?
Alors, oui.
C'est à toi que je m'adressais, Aka. C'est toi qui... Notre expert, IA.
Globalement, en fait, vraiment, l'idée de l'IA, et en particulier des réseaux de neurones qui sont derrière la plupart de ces IA émergentes, c'est vraiment d'apprendre d'une base de données, donc qui va être globalement assez considérable grâce à Internet. Et j'insiste sur le mot « apprendre », c'est-à-dire que ça va apprendre plus ou moins par cœur. Donc ça ne va pas chercher à comprendre, mais par contre, ça va faire des corrélations entre différentes données. À la base, c'est créé pour faire de l'aide à la décision ou de la classification. Donc, typiquement, ça va être fait pour classifier une image, dire si c'est plutôt un chat ou plutôt autre chose. Par contre, ça ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qui fait un chat. Ça va regarder une image et classifier cette image dans l'endroit le plus probable. Donc, ça va faire des calculs compliqués de probabilité pour trouver quelle est la classe la plus probable de l'image qu'on va lui donner. Donc, pareil, bah, pour des IA plus développées comme ça va nous intéresser ici, ça va prendre différentes images qui ont été classifiées, dans lesquelles on a donné des classifications et des mots-clés. Et ensuite, en fonction des mots-clés qu'on va donner dans notre requête, ça va mélanger un certain nombre de ces images, prendre les points clés de ces images qui se rapportent aux mots-clés qu'on a demandé, et les mélanger. Donc là, je prenais plus l'exemple d'image, mais ça va fonctionner exactement de la même manière pour un texte. Et pour une traduction, pareil, ça va chercher à partir d'un ensemble de mots, quel va être l'ensemble de mots le plus probable dans la langue voulue.
Ouais, ce qui explique effectivement, par exemple, pour celles et ceux qui ont déjà essayé ChatGPT, pourquoi est-ce que cette IA est capable de te répondre comme si tu avais pratiquement un vrai être humain en face de toi. Tu lui demandes de te tutoyer, elle te tutoie, tu peux switcher en n'importe quelle langue, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que ChatGPT a avalé tout Wikipédia, qui représente, je crois, 0,1% de toutes les données, enfin de toutes ces datas. Et ça, c'est juste ChatGPT 2, je crois. Je crois qu'on n'en est même pas à la version 3. La version 3, je crois que c'est un monstre par rapport à la 2.
Ouais, et là, on en est à la version 5, je crois, actuellement.
Ah, la version 5 ? La version 5 a été lancée ?
Je crois bien. Alors, c'est
peut-être. Ah, il me semblait qu'on était. Il me semblait que pour le grand public, on était resté à la 2.
Il faut demander directement à ChatGPT
à quelle version il en est.
Ou elle, je ne sais pas quel pronom on doit employer pour ChatGPT. Peut-être que la version 5, c'est Skynet.
Peut-être.
On va vraiment s'inquiéter.
Peut-être là-bas. Qu'on n'est pas très loin de Skynet. Moi, je lui demande à quelle version es-tu.
Et, Alors, il est en train de me faire tout un truc, mais il ne m'a pas donné de numéro de version. Ah, moi, j'ai plus d'informations, mais il me dit qu'il est la version actuelle de ChatGPT.
Ah.
En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de numéro de version distinct. Cependant, je suis constamment en cours de mise à jour par mes développeurs pour améliorer les performances et mes capacités à comprendre et à
répondre,
blablabla. Ça y est, encore deux paragraphes derrière. On ne saura pas.
Petit secret comme tout le monde.
C'est petit secret, exactement. Ok. Bon, on en a cité quelques-uns, hein, des intelligences artificielles. Donc, bien entendu, ChatGPT de la société OpenAI, qui a également DALL-E.
Pour les illustrations.
Oui, exactement, qui fait des illustrations. Et il faut savoir que OpenAI, à la base, c'est cofondé par Elon Musk, qui a quitté la société
encore
il y a...
Lui.
Pardon ?
Non, je dis encore lui.
Ouais, il est partout. Ouais, ça m'a aussi étonné pendant les recherches. Je me suis dit la même chose quand j'ai vu sa tête. Je me suis dit, oh là là, on est encore obligé de parler de lui.
Toujours lui.
Mais oui, effectivement, il était à la base de OpenAI. Il est parti en 2018 parce qu'il avait une mésentente avec la direction. Donc, il n'est plus dans la boîte. Et OpenAI, en ce moment, est très, très financé, notamment par Microsoft, qui, je crois, compte investir, je sais plus, en tout cas, c'est plusieurs milliards pour intégrer. Le but, ça va être d'intégrer de façon ChatGPT au pack Office. Et, et déjà, je crois qu'on a ChatGPT déjà d'intégrer dans Bing.
Mmh. Effectivement, ouais.
Voilà. Bon, en tout cas, vous avez... Alors, Midjourney, par contre, dans mes recherches, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça vient d'un labo de recherche indépendant. Pour le coup. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Maintenant, des intelligences artificielles, notamment pour ce qui est de l'illustration, il commence à y en avoir pas mal, hein, parce que entre Scriper, Snowpixel, Night Café, et j'en oublie plein, ça se développe en tout cas à une vitesse extrêmement, extrêmement rapide. Sachant qu'il me semble que Midjourney a été lancé en juillet 2022. Donc c'est vraiment...
Ouais, pour le grand public, ouais.
Ouais, exact. Oui, pour le grand public, bien sûr. Donc c'est vraiment tout récent. Mais pour le coup, on va s'intéresser maintenant, point par point, aux effets de ces IA dans les différents pans qui nous intéressent. On va commencer par celui de la traduction. Alors la traduction, Gilles Hossein, du coup, toi, tu utilises depuis plusieurs années maintenant un logiciel d'intelligence artificielle pour traduire. Donc, tu peux nous en parler un peu?
Oui, merci. Et le pire, c'est que des gens vont le croire. Mais bon.
Alors, je plaisante, bien sûr.
Oui. Et comme le disait Aka dans l'introduction de ce sujet, je reprends ses mots. Quel est le risque pour la traduction littéraire, notamment, et doit-on accepter plus largement la disparition de certains métiers au profit de l'intelligence artificielle? C'est vrai que moi, dans la traduction, j'ai testé un peu un des programmes les plus connus, c'est DeepL. Je ne sais pas comment on prononce exactement.
DeepL, non?
Peut-être. Voilà, qui est d'ailleurs bien plus pertinent que ce bon vieux Google Trad. Enfin, pour les tests que j'ai pu mener. Mais par exemple, DeepL, qui est quand même, comme je disais, assez impressionnant par certains côtés, si tu lui donnes un dialogue à traduire, encore aujourd'hui, d'une ligne à l'autre, il va basculer du tutoiement au vouvoiement, par exemple. Alors que c'est les mêmes personnages qui sont en pleine discussion. Donc, c'est un peu problématique, parce qu'en général, tu bascules pas constamment du vous au tu. Alors, c'est sûr que c'est moins gênant en anglais, hein, par exemple, mais dans une langue comme le français qui fait le distinguo, tout de suite, c'est embêtant. Voilà, il n'y a pas de logique dans la traduction. Et en fait, on peut pas plus largement donner de consignes à suivre au programme. Là, on est vraiment finalement dans un programme de traduction, j'ai presque envie de dire à l'ancienne. Et puis même en admettant que ce soit le cas, est-ce qu'une intelligence comme, pour le coup, un programme, j'ai presque envie de dire avec DeepL, est-ce que celui-ci pourrait vraiment saisir toutes les subtilités de niveau de langage, par exemple, selon la plume de telle autrice ou tel auteur, les jeux de mots, notamment, je pense, c'est du Pratchett, etc. Et puis, c'est pas le programme qui va contacter l'autrice ou l'auteur pour lui demander des précisions sur un point bien spécifique de la traduction, etc. Donc là-dessus, on en est quand même encore loin. On est quand même encore loin, je pense, de confier une traduction entière d'un roman, quelque chose de très littéraire, à un simple, entre guillemets, programme. Même si, encore une fois, je suis admiratif du travail abattu par les programmeurs pour concevoir ce genre d'entité, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que ça me fait un peu sourire quand je repense à un message sur le forum. Et puis, je pense que d'autres personnes ont déjà dû penser ça, hein, que, notamment avec le prix du papier qui fait que le prix des livres lui-même augmente beaucoup ces derniers mois, de se dire que finalement, on pourrait peut-être rogner sur le prix des livres quand il s'agit de traduction, en faisant appel à des programmes plutôt qu'à des êtres humains. Bon, je pense qu'on n'y est quand même pas encore. Je suis pas sûr que, comme je dis, que le résultat soit vraiment très très pertinent, parce qu'en plus, en imaginaire, en fantasy ou en SF, on a quand même aussi beaucoup de trucs très spécifiques, comme c'est pas, pour moi qui est traduit par exemple aussi du Nicholas Sparks, du roman très contemporain dans notre monde. Là, je pense qu'à la limite, c'est plus facile pour un programme de s'y retrouver. En fantasy ou en SF, on a aussi beaucoup de termes inventés, par exemple, de choses qui viennent vraiment de l'univers créé par l'autrice ou l'auteur derrière. Et pareil, parfois, pour un seul mot, on passe vraiment, vraiment beaucoup de temps à essayer de trouver un équivalent en français. Et je me suis amusé là aussi, notamment, à voir ce que ça pouvait donner. Et parfois, le programme ne traduit tout simplement pas le mot. Et donc, te laisse un mot en anglais en plein milieu du texte.
Alors, tu peux rien lui proposer.
Ouais, en fait, parce qu'il ne doit pas
traduire. Par exemple, Winterfell, il le laisse en anglais, quoi. C'est quand même étonnant.
Ouais. pour le coup, je veux bien te croire, parce que j'ai déjà vu... Ok. Et du coup, c'est vrai que ça aussi, tu te dis qu'en fait, quelque part, il y a encore beaucoup de limitations, même si là aussi, c'est en perpétuelle évolution. Hein. Je suis pas encore tout à fait convaincu. Alors, bien sûr, on me dira que je ne suis pas objectif, hein, étant un traducteur de métier. Mais voilà, à mon avis, il y a encore une marge. Après, combien de temps ça va durer? Est-ce que vraiment tu pourrais avoir quelque chose de ultra pertinent d'ici, je sais pas à quel horizon, 10 ou 15 ans, je sais pas. À voir, hein, on pourra se donner rendez-vous à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que dès que tu te retrouves à quelque chose d'assez travaillé sur le plan littéraire, d'assez spécifique, et comme je le disais, les romans de SF Fantasy ont quand même beaucoup de particularités. Et voilà, puis même simplement des trucs aussi simples que régler ces histoires de vouvoiement, tutoiement. Voilà, et encore, peut-être que ça peut faire un premier jet très dégrossi, mais je pense que derrière, tu passerais tellement de temps si un éditeur se disait qu'il va directement passer un texte là-dedans et après confier le résultat du premier jet à un correcteur ou une correctrice. Je pense que les pauvres s'arracheraient les cheveux quand même encore quelques temps pour remettre ça dans un français intelligible, en tout cas sur un plan vraiment littéraire.
Bah, en tout cas, ce que tu dis est intéressant, et de toute façon, c'est ce qui va sous-tendre un petit peu cette émission, c'est que les IA, pour l'instant, ne sont pas encore, mais tendent à devenir non ce qui va nous remplacer, bien évidemment, mais des assistants. Et pour l'instant, DeepL n'est pas encore un assistant, on va dire, extrêmement fiable, même si c'est censé être le meilleur traducteur du monde. Ça, c'est quand vous allez dessus, c'est la promesse.
Bah, globalement, ça reste quand même impressionnant. Hein. Tu te dis que sur certains trucs, ça peut passer. Mais, voilà, bah, c'est ce que j'avais noté dans le plan du podcast en préparant. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour mes confrères qui font de la traduction plus technique. Et encore quand c'est technique, j'imagine que si tu traduis, je sais pas, des trucs vraiment très spécifiques, au hasard des moteurs de bateau ou que sais-je, là, il vaut mieux quand même s'y connaître. Et je suis pas sûr qu'une traduction automatique puisse vraiment remplacer de ça, mais remplacer une femme ou un homme derrière. Mais après, c'est vrai que si tu te dis, bon, si c'est juste une notice de meuble IKEA, c'est encore différent, parce que c'est un langage à part, le langage IKEA. Mais en tout cas, pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, voilà.
C'est sûr que s'ils commencent à traduire tous les noms des meubles IKEA, ça deviendrait assez vite assez étrange. Mais...
Ouais, bah là, je pense que le programme imploserait de lui-même. Et...
Mais soit dit en passant, en fait, les termes techniques, contrairement à ce que tu dis, c'est finalement quelque chose qu'il est très capable d'apprendre assez facilement. Il suffit qu'il ait vu suffisamment de notes techniques. Ouais, typiquement
même au niveau du contexte, du coup.
Bah, justement, si on va lui dire ceci, traduis-moi cette notice de moteur d'avion, ce qui doit arriver assez régulièrement. Moi, je lis couramment les notices de moteur d'avion, bien évidemment. lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ce qu'il connaît quelque part comme notice de moteur d'avion, et il va se rapprocher de ce genre de truc-là. Donc, il va récupérer les mots qui correspondent, et les termes techniques, il les aura. Ce qu'il n'aura pas forcément, et qui est beaucoup plus compliqué à faire, c'est des trucs où, finalement, il y a moins de données, où les données sont peut-être plus subjectives. Donc, recoller sur le style de quelqu'un. Alors, on peut le voir, bah, ChatGPT fait bien ça. On peut lui demander d'écrire un texte à la façon de Guy Gavriel Kay ou d'Emmanuel Chastelière. Je prends ces exemples parce que je l'ai déjà fait. Autant vous dire que le dernier est beaucoup plus verbeux que le premier, d'après ChatGPT. Et en fait, bah, là, il a du mal parce qu'en fait, il a finalement peut-être pas assez de données et des données qui sont pas...
Oui, qui restent parcellaires.
Oui, et puis qui sont un peu subjectifs quand même, quoi. Qui demandent une compréhension de comment a réfléchi, qu'est-ce qu'a voulu faire l'auteur à cet endroit-là, et ça ne va pas être le même en fonction des livres, etc. Et du coup, les données sont moins fiables, du coup, oui. Il sera plus facilement perdu. Alors que finalement, une notice très factuelle quelque chose de très précis, bah, il va pouvoir le faire assez...
C'est sûr que j'espère que les notices de moteur d'avion sont effectivement très factuelles et très précises, parce que c'est un petit peu dangereux si c'est...
Il vaut mieux pas qu'il y ait place à interprétation.
Oui, voilà, c'est ça, c'est pas chacun...
Du second degré. C'est ça, appuyez sur ce bouton rouge, surtout, quand ça...
Et donc bon, mais bon, non, mais tu as bien fait de préciser. Donc effectivement, on en revient à l'idée que dans la traduction technique, c'est peut-être là que les programmes tels que DeepL peuvent performer, performer, c'est pas très beau d'ailleurs en français, mais peuvent s'illustrer de façon la plus pertinente pour l'instant.
Oui, probablement. Ouais.
Sachant que ceux qui utiliseront des logiciels comme DeepL pour faire de la trad technique, beaucoup utilisaient probablement déjà ce qu'ils avaient sous la main comme outil de traduction rapide, on va dire.
Oui.
Donc finalement, ce sera si au moins ça permet d'améliorer un petit peu la qualité de trad, de ton lave-vaisselle, typiquement, tu vois, pour trouver l'option. Alors, j'ai pas de lave-vaisselle, mais on va dire nettoyage rapide, encore plus vite, tant mieux.
Les économies d'énergie.
Exactement.
C'est ça.
Bon, on a fait un petit peu le tour de la traduction. On va passer à un gros morceau, c'est-à-dire l'illustration. Donc là, on a pas mal de choses à dire. Et déjà, Gilo, tu voulais nous parler des prompts, les fameux prompts.
Oui, en fait, je ne sais même pas. Je pense que le mot français, ce serait peut-être pour reprendre un truc plus français, ce serait requête qu'a utilisé Aka tout à l'heure.
Ouais.
Parce que finalement, c'est des requêtes qu'on soumet au programme pour obtenir une image. Parce qu'un prompt, c'est ça, hein, c'est en gros, c'est dire par exemple, dessine-moi, je sais pas moi, Tolkien à cheval sur une licorne, voilà, en 2225 sur Mars. Tu vois, tu peux tout tenter. Et en fait, plus tu es précis dans tes requêtes justement, et plus le résultat devrait être se révéler affiné, hein, forcément. Puisque dans certains programmes, tu peux même ajouter, un peu comme Aka disait aussi pour écrire un paragraphe façon OK, tu peux rajouter un dessin façon, je sais pas, enfin, un illustrateur connu ou un style de dessin genre façon animé, si c'est ce que tu recherches comme rendu. Et voilà, en fait c'est juste les consignes, voilà, les consignes que tu donnes au programme pour élaborer ton image. Et pareil, là, il va piocher dans une banque de données. Gigantesque à l'échelle d'Internet pour te créer de toutes pièces l'image qui est censée s'approcher le plus près de ce que tu avais en tête au départ, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, soyons clairs, selon les programmes et les résultats. Voilà, donc c'est ça en fait un prompt, tout simplement.
C'est un terme vous allez certainement réentendre beaucoup dans ce podcast, mais à mon avis dans les prochaines années également.
Les éditeurs sont déjà au taquet pour se servir de
ça. Ah oui, certains éditeurs savent déjà très très bien ce que c'est.
C'est ce qu'on a pu remarquer ces dernières semaines, hein, parce que avec l'explosion de ça, on a vu déjà un mouvement, tout simplement, pas mal d'illustrateurs qui se sont insurgés notamment sur ArtStation, donc qui est quand même un site de.
Qui regroupe
on retrouve aussi des professionnels que des amateurs éclairés d'illustration. Et en fait, beaucoup d'illustrateurs dessus auraient voulu que les dessins créés par des intelligences artificielles soient tout simplement bannis. Parce que notamment, ces programmes, souvent, piochent dans ArtStation pour leur base de données. Quoi. Sans forcément que, évidemment, tous les artistes aient donné
leur mot à dire.
Voilà, et leur mot à dire. Et on a vu, pareil, des artistes souhaiter publiquement que leurs dessins ne soient pas utilisés par les programmes. Ne serait-ce que justement comme modèle.
Et François Barranger, il me semble.
Ouais, François Barranger. Et puis, parce que c'est vrai que pour avoir testé ça comme ça, pareil, tu peux avoir, selon les programmes, ça marche plus ou moins bien, mais tu peux très bien dire à l'intelligence artificielle, fais-moi un dessin à la Marc Simonetti, par exemple. Et dans le rendu des couleurs, etc., c'est vrai que parfois tu te dis, alors de loin, mais tu te dis, ah oui, ça fait très Marc Simonetti. Et à partir de là, tu peux très bien imaginer qu'un éditeur se dise, je peux pas me payer Marc Simonetti comme illustrateur, ou Marc Simonetti n'est pas disponible. ah bah c'est pas grave, on va utiliser une illustration Midjourney bah, qui va nous faire du Mark Simonetti sans lui. Donc là, ça pose tout de suite pas mal de problèmes sur lesquels on reviendra, j'imagine, toutes les questions de droit d'auteur. Mais puisqu'on parlait des éditeurs, ces dernières semaines, on a eu aussi plusieurs illustrations, c'est le cas de le dire, de cas de figure où les éditeurs se sont fait un peu prendre la main dans le pot de confiture avec des couvertures, tout simplement créées ainsi, sans illustrateur ou illustratrice derrière. Notamment le livre de poche. Alors, Geeks, toi, tu te souvenais, parce que je ne me souviens jamais du titre du bouquin en question.
C'est Rich Larson. Ça me fait penser à Nicky Larson. Donc, ouais, c'est Rich Larson. La fabrique des lendemains.
Des lendemains, pardon. Voilà. Et donc, c'était au Bélial, c'est ça, le grand format, je crois.
Oui.
C'est ça. Et donc, le poche est sorti il n'y a pas très longtemps.
Ah ouais, le Grand Prix de l'imaginaire.
Ouais, voilà. Et ils se sont fait, choper, notamment effectivement sur Twitter et sur Numérama. Pas plus tard que la semaine passée, on a eu une réaction officielle du livre de poche qui disait que c'était pas, enfin qui bannissait l'usage des IA dans leurs illustrations à partir de maintenant, mais que pour celle-ci, en gros, ils étaient de bonne foi parce que, ils s'étaient pas rendu compte forcément que c'était une illustration créée de toute pièce, quoi.
C'est quand même pas de bol.
Après, voilà, on le croit ou on les croit pas, mais...
C'est sûr qu'une fois que tu es un peu pris la main dans le pot de confiture, j'adore cette illustration, c'est le cas de le dire, c'est difficile, en fait, de trouver une autre défense que de dire... soit tu joues effectivement un peu les insurgés en disant « Quoi ? Mais on m'avait pas prévenu puisque c'est ça, je décide que ce sera interdit. » C'est bien. Hein. Après, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ce sera interdit ? Est-ce que quand il y aura de nouvelles personnes, soit au livre de poche ou ailleurs, est-ce que tu n'en auras pas une qui va dire « Attendez, c'est bon, les IA, attends, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça fait 2-3 ans, ça fait 3-4 ans, allez ?» On peut s'en faire quelques-unes quand même, tu vois. On parle du livre de poche, mais on a également plus près les éditions Inis, hein, qui sur notre forum, quand on a posté la couverture, effectivement, sur le coup, on s'est pas mal d'entre nous se sont fait avoir parce qu'effectivement la couverture est quand même.
Si on regarde pas les détails, elle est quand même très très sympa.
Précisons de quel ouvrage on parle.
Oui, on parle de Mononoke de Yakumo Koizumi.
Histoire de fantôme japonais.
Histoire de fantôme japonais aux éditions Inis. Effectivement, quand on voit la couverture, elle est très belle. Hein. Vous avez un fantôme de femme dans une robe traditionnelle japonaise au milieu d'une forêt avec des tories, avec des papillons, etc. Et sur le coup, en fait, si vous ne regardez pas trop, vous dites « Waouh, c'est beau !» Sauf qu'en fait, ça nous a été signalé sur le forum, mais que c'est du Midjourney, en fait. Et quand vous regardez, effectivement, de plus près, vous voyez que les papillons, ils sont dessinés bizarrement. Et puis, les branches, il y en a qui sont à l'envers. Les positions des branches qui sont un peu cheloues, les tories aussi. Il y a des dispositions, en fait, qui montre en fait que l'agencement...
Très forte suspicion.
Il y a une très très forte suspicion, d'autant plus que Midjourney n'est pas crédité. C'est une personne qui est créditée, hein. c'est le fondateur de la maison d'édition. Donc,
c'est ça, c'est pas un illustrateur de métier qui est crédité.
A priori, hein, sauf s'il veut nous faire un droit de réponse, mais c'est a priori, ce ne serait pas un illustrateur de métier. Donc les suspicions que ce soit une IA sont vraiment très fortes. Et moi, je vous encourage à aller voir cette couverture parce qu'effectivement, c'est typiquement ce qu'on peut, quand on la regarde, on peut se dire « Ah ouais, elle est bien, et c'est que... chapeau l'illustratrice ou l'illustrateur », et en fait, pas du tout. Et a priori, pas du tout. Mais c'est la même chose pour Poster Girl de Véronica Ross qui avait effectivement...
Là, au moins, il y a eu une réaction.
Oui. Alors, il y a eu une réaction. Alors, certes, il y a eu une réaction, mais encore une fois, c'est une réaction un petit peu... une réaction de Elsa Lafont de Michel Lafon, hein, qui est la directrice générale, qui dans une interview sur le site Actualité, en fait, disait clairement que c'était une volonté de mise en abîme, d'utiliser l'IA comme...
Pas mal.
Ouais, c'est sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, une mise en abîme, c'est pas mal du tout, ça. Parce qu'en fait, dans le roman, l'héroïne est utilisée pour être le visage d'une... ça devient l'affiche de propagande d'un régime totalitaire. Donc, dans ces cas-là, utiliser l'IA pour faire cette couverture, c'est... C'est vraiment presque un côté un peu méta, quoi. Sauf que ça aurait pu être bien de le dire plutôt que d'attendre que des gens se rendent compte qu'en fait, ce qui est crédité, c'est Midjourney, quoi.
Au moins, ce qui est crédité, c'est Midjourney. C'est quand même dit quelque part, quoi.
C'est dit et ça n'intéressera que les personnes, si effectivement, qui le savent ou qui sont sensibles à la question. Encore une fois, moi, je vous encourage à aller voir la couverture de Poster Girl de Véronica Ross, donc qui est l'autrice de Divergente. Parce que quand vous voyez cette image, vous vous dites qu'effectivement, il y a un petit souci, mais ça tient en fait sur quelques détails. Mais quelques détails qu'un être humain, en fait, dont un illustrateur humain compétent ne ferait pas. Pour vous la décrire un petit peu, vous avez tout simplement le visage d'une jeune fille en gros plan qui regarde le lecteur. Vous avez une asymétrie dans les yeux. Les yeux sont pas de la même couleur, soit, mais ils sont pas exactement.
C'est souvent un signe.
Ouais, c'est ça. Ils sont pas souvent sur le même plan. Et surtout, je vous encourage à aller voir le merveilleux sourcil gauche de la fille en question, parce que là, vous aurez vraiment l'idée de ce qu'est un sourcil infini. C'est-à-dire que vous voyez un sourcil, et en fait, vous voyez que le sourcil ne finit pas. C'est-à-dire que le sourcil se prolonge jusqu'en bas de son visage, ce qui est effectivement là où on se dit « bon, ok, d'accord, il y a peut-être un petit souci, à moins que ce soit un choix de mode, hein, quelque part, mais bon. »
En tout cas, c'est vrai que c'est un exemple parmi d'autres, hein, parce qu'on en a malheureusement, ou pas, moi j'aurais tendance à dire quand même malheureusement, mais surtout quand justement, on va dire que c'est caché jusqu'à ce que quelqu'un... mettre en avant la couverture en disant « au fait, ça serait pas un truc créé par
c'est ça.
Parce que bon, par exemple, on a eu aussi, je crois qu'il y a Fleuve Noir aussi qui a été épinglé, Robert Laffont avec une novella de Dan Simmons, donc Déboussole d'Ulfante Banderos. Je vous invite à regarder.
Exactement.
Vous verrez l'illustration de couverture, et pour le coup, ça fait très, très effectivement illustration créée par une intelligence artificielle. Hein. C'est vraiment le genre d'architecture que ce genre de programme crée. Et voilà, et on avait aussi chez les Américains, pareil, hein, il n'y a pas que les éditeurs français qui sont...
Non. C'est une tendance de fond.
Dans la catégorie « On fait comme si de rien n'était », on a eu l'éditeur de Hessel Montt, hein, le compère de Steven Erikson.
Exact.
Le prochain roman de l'auteur, l'illustration, fait très, très illustration créée de toutes pièces.
Et là, bizarrement... Ouais.
Pas de réaction
encore
publique.
Encore une fois, quand vous regardez l'illustration, c'est...
De loin, ça passe toujours, mais c'est vrai que dès que tu t'attardes sur les détails...
Mais encore une fois, de loin, les réactions qu'on a eues sur le forum des Back-in, hein, sont assez dithyrambiques. C'est « waouh, c'est stylé et tout !» Et en fait, quand on s'attarde sur les détails, on voit qu'il y a un problème au niveau du visage du personnage. Comme si, oui, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes, mais c'est là où on voit le côté un peu uncanny, tu vois. Enfin, le côté vraiment, quand on s'attarde, on voit que c'est chelou quand même cette histoire. Alors, cela dit, le livre, c'est Forge of the High Mage de Path to Ascendancy, le livre 4 de la Voie de l'Ascendance. Et je crois qu'ils ont changé d'illustration parce qu'en fait, je ne trouve plus que un personnage. Non, je vous dis des bêtises. Ils n'ont pas changé d'illustration. Mais effectivement, il y a un problème au niveau du visage. En fait, on sent que l'IA ne sait pas trop ce qu'est un visage de face et qu'il le confond un petit peu avec la cagoule.
Il y a les mains aussi en général. Les mains, c'est très traître.
Ouais, Les mains, c'est un problème.
Ils ont beaucoup de problèmes à créer des mains.
Donc là, c'est bon, on les voit pas.
Une main est plus complexe qu'un visage, finalement. Donc, et bah, chez les Américains, on a aussi quand même des auteurs comme Paolini, hein, donc l'auteur d'Eragon.
Oui.
Donc avec son prochain roman de SF, Fractal Noise, chez Thor. Ouais. Et pareil, Thor qui a réagi officiellement parce que ça a été quand même débusqué assez facilement. Et c'était une défense un peu façon livre de poche, c'est-à-dire que on n'avait pas vu que notre prestataire nous avait pas.
Nous sommes mortifiés.
Ouais, mais on va l'utiliser quand même parce que en gros, on n'a plus le temps de changer d'illustration.
Voilà, donc malheureusement.
D'ailleurs, on voit des points communs entre toutes ces couvertures. Hein. Il y a souvent un personnage central dans un décor relativement stylisé. C'est rarement des trucs très... Alors, finalement, Poster Girl est assez différent des autres, mais sinon, les trois autres sont très semblables.
Oui. Il est assez différent des autres, mais en même temps, dans le trait, dans le côté très lisse, c'est vrai que tout de suite, ça fait très, très artificiel, je trouve.
Mais c'est peut-être, ça peut nous amener à penser que l'œil, j'allais dire, du lecteur, va peut-être s'habituer aussi à reconnaître un petit peu, à faire ces différences. Peut-être que dans une dizaine d'années, la plupart d'entre nous, je dis peut-être n'importe quoi, mais on sera capable de reconnaître en librairie ce qui vient d'une IA et ce qui n'en est pas.
En vrai, après, c'est probable que dans une dizaine d'années, les IA seront très largement plus performantes que maintenant et feront des trucs beaucoup moins classiques.
Et, oui, Gilo.
Après, oui, mais je pense que pour l'instant, ça se remarque assez facilement. Moi, de mon côté, c'est aussi parce que j'ai pas mal pratiqué la chose, histoire de parler d'une expérience perso.
Toujours, oui.
Oui, oui, l'IA. Oui, moi notamment, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui ne savent pas dessiner, mais qui ont beaucoup d'imagination, notamment quand on écrit. Il y a quand même, il faut pas nier qu'il y a quand même quelque chose de magique dans tout ça, en tout cas quand le résultat est réussi. Parce que certaines créations sont tout bonnement bluffantes, il faut quand même l'avouer.
Clairement.
Moi, je m'en suis jamais caché, ça peut m'arriver de m'en servir. En dehors de la traduction, décidément, je suis touché par tous les trucs d'intelligence artificielle, c'est quand même problématique dans mes activités. Mais au-delà de mes activités de traducteur, je suis aussi auteur depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que j'ai notamment créé l'univers de Célestopol qui compte quand même déjà deux recueils et quelques nouvelles à droite à gauche. Donc, ça commence à être assez étoffé, et c'est vrai qu'il y a deux ans, j'ai voulu créer un wiki pour accompagner un peu tout ça, et puis pour moi-même m'y retrouver. Et parfois, je me sers notamment de Snowpixel, qui est, je pense, à mon goût, le programme le plus efficace pour l'illustration, même si c'est payant. C'est peut-être pour ça que c'est le plus efficace aussi, je ne sais pas.
Peut-être.
Mais en tout cas, je trouve que les résultats, là, pour le coup, sont souvent bluffants, même si là aussi, on reconnaît assez facilement l'origine artificielle de ce genre de dessin. Et c'est vrai que moi, j'hésite pas à m'en servir pour le wiki de Célestopol, parce que tout simplement parce que je trouve qu'une page de texte seule, c'est parfois un peu triste, quoi, pour donner envie aux gens de consulter ou de cliquer. Mais c'est vrai que, toujours à titre personnel, je prétends pas que chacun fait ce qu'il veut avec ses intentions ou sa conscience. C'est vrai que, par exemple, moi, je m'en servirais jamais à des fins commerciales. C'est-à-dire que tout récemment, j'avais publié aussi une nouvelle pendant le confinement, une nouvelle gratuite, le premier confinement, et il y a quelques temps, je me suis dit, tiens, justement, sur Snowpixel, il me restait quelques essais en stock, et je me suis dit, pourquoi pas créer une illustration de couverture à cette nouvelle pour la remettre en avant, mais toujours gratuitement. Donc voilà, mais c'est vrai que ça me viendrait pas à l'idée d'utiliser une illustration créée ainsi... à usage commercial, on va dire, en faisant payer quelque chose aux gens, parce qu'après tout, ils seraient peut-être aussi attirés vers mon texte par l'illustration, donc je veux pas profiter de cette création. Et c'est la même chose si un éditeur voulait m'imposer une illustration créée par intelligence artificielle, histoire de zapper les coûts du travail d'un véritable artiste. Voilà, moi c'est vrai que ça me mettrait très mal à l'aise et je refuserais de toute façon. Idem, comme je disais tout à l'heure, certains programmes piochent clairement dans le portfolio de certains artistes et On peut parfois arriver à des résultats assez ressemblants. Et c'est pareil. Moi, je me refuse, par exemple, même si Marc Simonetti a illustré les deux Célestopol en grand format, si je crée des trucs pour le wiki, je refuse de... je m'impose de ne pas utiliser... de ne pas inclure le nom de Marc Simonetti dans le prompt, quoi. Justement parce que je n'ai pas envie de copier son style, alors que là, pour le coup, l'illustration ne serait pas de sa main.
Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand même... moi, ce que je trouve chouette, c'est que quand même, il faut reconnaître que c'est un outil qui est absolument génial pour l'amateur, quoi. Le problème qu'on peut voir, c'est l'utilisation commerciale, mais pour
l'utilisation abusive.
C'est ça. Pour des amateurs, c'est quand même génial. Donc, comme tu dis, pour illustrer ton podcast, mais tu vois, des trucs tout bêtes pour des joueurs de jeux de rôle, pour se faire une image de son personnage, il y a plein de cas où on aurait juste envie d'illustrer quelque chose sans avoir besoin de commercialiser le produit. Ça, c'est quand même magique parce qu'on a quand même des résultats qui sont bluffants, quoi.
Ah quand comme moi, tu sais juste dessiner des bonhommes bâtons, c'est sûr que... C'est sûr
et encore, vous n'avez pas vu ces bonhommes bâtons, parce que vraiment...
Et ça, c'est la faute des gens qui me demandent de faire un dessin lors d'une dédicace. Je les préviens toujours que je ne sais pas dessiner, c'est votre faute si vous insistez.
Oui, mais c'est toujours plus fun quand on a quand je te demande un éléphant et que... d'ailleurs, entraîne-toi à dessiner des éléphants, parce que pour la sortie d'Ibis... tu vas en avoir.
Peut-être.
Chers auditeurs, si vous écoutez ce podcast et que vous comptez acheter Emils d'Emmanuel Chastelière, n'hésitez pas en dédicace à aller lui demander de dessiner un éléphant. Voilà.
D'Afrique ou d'Asie, vous verrez la différence tellement je suis.
On espère que tu dessineras la différence.
Ouais,
mais en tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Ça pose bien évidemment la question des droits d'auteur. Parce que si on reprend l'exemple de Marc Simonetti, si je lui demande un dessin, fais-moi un portrait de Michael Jackson, mais dans le style de Marc Simonetti. Du coup, l'image qui est produite, elle appartient à qui ? Est-ce qu'elle m'appartient à moi qui ai écrit le prompt ? Est-ce qu'elle appartient à Marc Simonetti ? Ou est-ce qu'elle appartient aux ayants droit de Michael Jackson ? Concrètement.
Ça, c'est encore plus le cas, j'imagine, si tu t'es servi d'une photo. Puisque certains programmes, tu peux même partir d'une photo. Oui. Et à partir de la photo, le prompt s'adapte à la photo, en fait. Encore plus... Tu peux faire ça sur Snowpixel, par exemple. Et après, tout dépend si c'est une photo perso ou si c'est une photo de quelqu'un ou une photo qui est déjà soumise au droit d'auteur, mais que toi, tu utilises comme ça. Si on la reconnaît derrière, effectivement... l'origine du...
Parce que si tu dis à l'IA, fais-moi un dessin d'un mec qui ressemble, qui évoque Michael Jackson et dans le style de Marc Simonetti, du coup, dans ces cas-là, tu restes dans une espèce de méga zone de gris, quoi.
C'est ça, c'est que là, on entre dans quelque chose où la morale entre en jeu, quoi. C'est jusqu'où tu peux te permettre d'y aller. Et justement, là, t'as dit quelque chose qui me dérange beaucoup, Gilo. C'est si quelqu'un s'en rend compte, c'est grave. Et en fait, non, c'est grave même si on s'en rend pas compte, quoi, quelque part.
J'ai dit ça.
T'as dit quelque chose comme ça ou...
Non, j'ai dit tout dépend. Après, si quelqu'un s'en rend compte, qui tu vas créditer? Mais je crois pas avoir dit
Peut-être, en effet. Mais du coup, quelque part, ça sous-entend que si personne s'en rend compte, on n'a pas besoin de créditer qui que ce soit. Et en fait, c'est là où est le... j'ai déformé tes propos, excuse-moi. Mais je pense qu'il y a une vraie question là-dessous.
Quelle est la légitimité
finalement d'utiliser ça, même si c'est finalement le résultat et... Si je demande à l'IA de dessiner un bonhomme bâton selon la technique d'Emmanuel Chastelière, est-ce que on peut me reprocher ça? Je sais pas.
Pour rebondir sur ce que tu dis, il y aura toujours des gens, j'imagine, pour considérer que c'est le traditionnel pas vu pas pris, quoi. Mais c'était pas mon propos,
je pense. Je pense que le droit d'auteur, à mon avis, va avoir beaucoup de boulot.
Les avocats spécialisés, oui.
Ouais, exactement, mais même hein, les lois vont évoluer. De toute façon, les lois évoluent en fonction de la société, hein, c'est normal. Il y a un vide juridique, clairement, et là, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, en 2023, bah, peut-être que ce sera déjà un peu plus réglementé, peut-être, ou pas, d'ici quelques années, et qu'effectivement, bah, ce sera clairement établi que, bah, on n'a plus le droit, ou on peut, au contraire, faire ce dont on évoquait. L'avenir nous le dira.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut évoquer du coup l'écriture pure ? Parce que là aussi, il y a encore du boulot. Okay. Ouais, exactement.
Ouais, là, je trouve que il y a encore du boulot au niveau IA et les écrivains ont quand même relativement de beaux jours devant eux.
Toi aussi, tu as essayé d'écrire le dernier bouquin d'Emmanuel Chastelier.
Exactement. Non, mais on s'est prêté bah, sur le forum à un moment sur, ouais. Sur écrire le paragraphe final du prochain bouquin d'Emmanuel Chastelier. Et soyons honnêtes, c'est pas bon. C'est clairement pas bon.
C'est pas terrible.
Non, mais précisez que vous parlez de vos essais. Hein. Parce que là aussi, certains vont extrapoler. Là.
Non, mais c'est vrai que finalement, bah, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que l'IA, elle ne va pas créer, elle va pas essayer de comprendre ou de faire des trucs originaux. Elle va reprendre ce qui est le plus probable. Donc finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est très très stéréotypé, qui est bah, les phrases sont pas du tout riche, pas du tout intéressante. Il y a pas d'inattendu. Tout est scripté comme voilà. Bah, on prend quelle est la phrase la plus probable qui vient après ce type de phrase. Qu'est-ce qu'on va créer finalement? Bah, quelque chose qui est juste ouais, c'est voilà, très très stéréotypé. Et du coup, bah, c'est pas bon.
Oui, Gilo.
Bah, moi aussi, du coup, en prévision du podcast, j'ai fait quelques tests cette fois sur ChatGPT hein, pour ce qui est de sur le plan de l'écriture. Alors, je vais pas demander de réécrire la fin de mon livre puisqu'il est fini, heureusement. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a des limitations qui bah, sont d'une part une question de base de données, je pense. Bah, tout simplement parce que déjà, il me semble que ChatGPT s'arrête début 2021 quand tu lui demandes des trucs très récents et
oui,
pas de les sortir. Et après, j'imagine que plus un auteur ou une autrice est connue, et plus il aura de facilité à tomber sur des textes, bah, j'imagine notamment pas copyrightés, parce que par exemple, je sais pas si tu lui dis « fais-moi une scène d'action à la Joe Abercrombie », je sais pas dans quelle mesure les textes de Joe Abercrombie sont consultables, tu dois avoir des extraits.
Je suis pas sûr.
Tu dois avoir des extraits, mais...
Ouais, t'as des extraits, mais je pense pas qu'il ait accès. Ouais,
c'est ça.
C'est pas la bibliothèque d'Alexandrie.
Ça, voilà. Donc, et après, c'est plus ou moins pertinent. J'imagine que c'est plus ou moins aussi pertinent selon la langue dans laquelle tu l'interroges. Parce que si en plus tu l'interroges en français, mais que tu lui donnes comme référence un auteur anglais ou américain, bon, bah, forcément, je pense que le résultat s'éloigne encore plus de ce que pourrait être pas bon, un roman de SF, de hard SF par Abercrombie. Voilà, ce genre d'essai. Et puis, comme tu disais plus tôt, il y a aussi ce côté, contrairement à notre, je pense qu'on va beaucoup utiliser cet exemple, mais à notre notice de moteur d'avion, bah, l'écriture, il y a quand même beaucoup plus de sous-entendus, de subjectivité, voilà, de place laissée à l'interprétation, même selon les auteurs qui, bon, il y a des auteurs qui aiment bien tout expliquer de A à Z, mais d'autres qui sont beaucoup plus dans le non-dit. Alors, pour interpréter le non-dit pour une intelligence artificielle, j'imagine que c'est quand même un sacré défi, vu que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans son mode de fonctionnement classique, je suppose. Donc, voilà, moi, je pense que là aussi, ça deviendra peut-être impressionnant dans quelques années, mais pour l'instant, peut-être que ça peut tromper, je sais pas, moi, peut-être que ça peut aider les collégiens à faire une rédaction, mais...
Et encore, si, je pense que vous avez peut-être vu la... En parlant de rédaction, mais les profs sont très concernés par ChatGPT, mais parce que bah on a une recrudescence, ils ont une recrudescence des de copies qui bizarrement se ressemblent un petit peu toutes. Alors apparemment, ça se voit beaucoup. Moi, ça m'évoque énormément. Ça fait vraiment souvenir du vieux de la vieille, hein, mais je pense que vous avez les mêmes, messieurs. mais moi, ça m'évoque énormément les quand j'étais au lycée et que j'avais les premiers profs, les premières remarques de profs qui disaient « J'ai mis un tiers de la classe, je vous ai mis entre 0 et 4 parce que c'est recopié sur Internet ». Et moi, qui à l'époque, pauvre de moi, n'avais pas Internet à la maison, oui, même en 2004, c'est venu après.
T'avais des bonnes notes, du donc, coup
bah, pas forcément, mais en tout cas, j'étais pas accusé de triche.
Il avait 5, au lieu de 0.
Non, mais si tu veux, ça m'a...
Il avait légitimement la bonne chose... 4.
Exactement. J'avais une légitime mauvaise note. Non, mais en fait, si tu veux, ça m'a évité d'avoir la tentation de le faire. Parce que forcément, bah, aujourd'hui, tu as ChatGPT, tu te prends un devoir de philo, enfin, un texte, une citation de Kant à laquelle tu comprends rien. Forcément que tu es tenté, tu sais, tu dis, bon, allez, vas-y, qu'est-ce qu'il va me dire ? Et forcément que tu dis, ah ouais, c'est une bonne idée, ce qu'il m'a dit. Et puis, tu essayes de forcément d'en sortir quelque chose. Bon, voilà. Donc, j'ai vu que Sciences Po l'avait interdit. Oui, Gilo.
Tu peux même être de bonne foi et te dire que ce sera juste. Vu que sa base de données est en partie Wikipédia, bon, tu te dis, au moins, je ne dirai pas de bêtises.
Mais c'est ça. C'est ça. C'est que, effectivement, ça risque d'être de toute façon de plus en plus utilisé comme Wikipédia l'est aujourd'hui, sachant que bah, les profs aujourd'hui savent très bien, se sont très bien adaptés et savent reconnaître des rédacs qui sont tapés comme sur Wikipédia, ça se sait. Et je crois que d'ailleurs qu'il y a même des logiciels qui détectent automatiquement.
ChatGPT, ça commence. Hein, mais...
Ouais, même ça, ça commence. La résistance s'organise. Donc, tout ça pour en revenir au fait qu'effectivement, oui, il y a du boulot. Maintenant, si parmi nos auditeurs, il y a des aspirants auteurs, ChatGPT, ça, pour être tout à fait honnête, hein, moi, je l'ai utilisé aussi un petit peu, un peu comme ça, et Aka, je crois que tu l'as fait aussi. Mais simplement, tu donnais ton pitch de roman à ChatGPT ou donner simplement lui dire bah tiens mon roman c'est ça et actuellement je suis bloqué sur ce passage là, qu'est-ce que tu me conseilles pour que le héros s'en sorte alors qu'il va se faire hacher menu par un loup-garou ou coupé en deux par une épée et ChatGPT peut proposer des solutions, bien entendu ce sera pas forcément des solutions qui seront ultra originales mais ça peut aider en tant que, encore une fois, assistant édito, presque.
Oui, ouais, alors, justement, là, c'est le pendant positif, j'ai envie de dire, de l'utilisation de l'IA. C'est comme aide, finalement, pas comme rédacteur, mais comme aide.
Comme béquille.
Voilà, comme béquille, pour plein de trucs. Et en fait, alors moi, je suis quelqu'un de fourbe, et du coup, j'ai demandé tout à l'heure à ChatGPT de me faire un plan pour un podcast sur l'utilisation de l'IA et la littérature fantasy. Et du coup, dans les points qu'il m'a donné...
On est en train de vous le déclamer. Là.
Voilà, c'est ça. Dans les points qu'il a donné et que je trouve assez intéressant, c'est toute la partie... Donc, c'est le point 3 chez lui, comment l'intelligence artificielle est-elle utilisée dans la littérature fantasy. Et il met présentation des différentes utilisations de l'IA dans la littérature fantasy, par exemple, la création de personnages, la génération de scénarios ou l'analyse de données pour améliorer l'écriture. En fait, là, c'est assez intéressant, c'est vraiment en tant que aide, finalement, à la création après. C'est pas, ça va pas te créer quelque chose, mais ça peut t'aider, te donner des bases pour créer ton univers ensuite.
Et c'est un support au même titre que Internet.
Exactement.
A ce rôle-là de support. Et on parlait des aspirants auteurs, mais enfin des auteurs tout court. Quand tu as envie d'écrire une scène qui se passe, je sais pas, à la Nouvelle-Orléans et que tu n'as jamais mis les pieds à la Nouvelle-Orléans, tu vas sur Wikipédia Nouvelle-Orléans.
Voilà.
Tu vas sur Google Images Nouvelle-Orléans.
Ou tu demandes à ChatGPT la description de la Nouvelle-Orléans en 1732.
C'est ça.
Il ne devait pas y avoir grand-chose. Mais du coup...
Gilo a toujours les meilleures solutions.
Là où c'est rigolo, c'est que du coup, je continue sur mon plan de ChatGPT qui est assez intéressant finalement. C'est qu'après, il donne les avantages et les limites l'utilisation de l'IA.
Une certaine objectivité.
Oui, tout à fait. Et dans les avantages, il met accélération du processus d'écriture. Oui, forcément. Alors, je pense que ça peut être plus ou moins limité. Si tu lui fais tout écrire, c'est sûr que ça accélère. Ensuite, ne serait-ce que pour te donner des bases pour une description ou quelque chose comme ça, ça peut accélérer ton processus. Ensuite, possibilité de créer des personnages et des mondes plus complexes. Alors ça, je ne suis pas sûr de le comprendre, mais admettons. Et utilisation de données pour améliorer la qualité de l'écriture. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout expérimenté, et je ne sais pas exactement comment l'expérimenter, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et les limites, par contre, qui sont assez factuelles et assez intéressantes, c'est risque de perte de la créativité et de l'originalité dans l'écriture, difficulté à retranscrire les émotions et les subtilités humaines, ça c'est clairement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dès que c'est subjectif un peu, c'est compliqué, et risque d'accentuer les biais culturels et sociaux. Donc ça, pareil, comme on est toujours dans les choses les plus probables, ça va, si on lui demande de faire un personnage, il va être potentiellement un peu stéréotypé.
Donc ChatGPT connaît ses propres défauts.
Oui, j'ai même l'accélération du processus d'écriture. Hein, bon, je comprends qu'il le liste, mais c'est vrai que là aussi, j'imagine que c'est vraiment selon les cas, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un essai avec cette histoire de Joe Abercrombie, et le truc, c'est que du coup, je lui ai décrit ce que je voulais voir dans la scène. Mais en fait, quand le programme me balançait son essai ensuite, en gros, il reprenait quasiment mot pour mot ce que je lui avais donné comme données. Et donc, ça accélère rien du tout, puisqu'il te reformule vaguement ce que tu lui as dit. Encore parfois, la reformulation est très, très légère. Ce qui me rappelle cette légendaire interview de The Rock, pour je ne sais plus quel film, où en gros, toutes les questions étaient en mode genre, ah, ce tournage était-il très difficile? Et lui, il répondait, oui, ce tournage était très, très difficile. En gros, la réponse n'avait pas pour moi que la question, parce qu'il retournait à l'affirmative la question. Et là, j'avais un peu l'impression d'être comme si ChatGPT c'était The Rock, tu vois, et qu'en gros, ce que je lui disais, il faudrait qu'il y ait trois assassins. Et il y avait trois assassins. Oui, ok, mais bon. Mais je viens de te le dire, mais il faut élaborer, il faut l'écrire avec un style différent. Et lui, en fait, ne le fait pas. Donc, bon.
C'est ça, je pense que tu as peut-être été trop précis dans tes demandes.
Peut-être.
Typiquement, la demande de base, ça va être fais-moi une description de la Nouvelle-Orléans en. Allez, on va peut-être pas mettre 1730, ça risque d'être un peu boueux, mais peut-être en.
1951,
oui. Bah après, il faudrait juste qu'il réponde pas Nouvelle-Orléans, 1832.
Non, mais si tu lui demandes, si tu lui dis décris-moi l'état des rues, les constructions, enfin comment sont faits les bâtiments, je le dis pas très bien. Mais en fait, je vais évoquer quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est parce que est-ce que ça donne naissance ou pas à une forme d'art que le prompt art, c'est-à-dire l'art de d'écrire justement les requêtes, est-ce qu'on va pouvoir considérer ça comme un art ou pas?
Bientôt, il y aura prompt arteur dans les bio.
Eh ben écoute, tu crois pas si bien dire, mais ça commence peut-être déjà effectivement un prompt arteur. Ça fait un peu Kickstarter, mais ici, ça n'a rien à voir. Mais oui, est-ce que... là, je le vois, parce que je me prends déjà des publicités qui me recommandent d'utiliser ChatGPT de la bonne manière. Donc, il y a déjà des formations pour bien utiliser les prompts de ChatGPT. Je reçois des mails et tout. Voilà les prompts que nous, on utilise. Donc, je sais qu'on peut lui faire des tableaux. Je sais qu'on peut... Pardon ?
Coder aussi, non, je crois.
Oui, tu peux coder.
C'est pas mal pour coder, pour faire du code informatique. Ça a des trucs assez...
Je vais taper tout de suite. Code-nous la V4 d'Elvakin.net.
J'allais le dire. Code-nous la prochaine version du site.
Ah, il a fini. Ah bah voilà. Voilà. Mise en ligne la semaine prochaine.
Soit dit en passant, je suis en train de lui demander de me faire une description de la Nouvelle-Orléans en 1832. J'ai une première version qui est très très factuelle, ça fait un peu sorti de Wikipédia. Du coup, je lui ai demandé une version un peu plus littéraire derrière. Donc, c'est en train de la montrer, mais je peux vous lire déjà le début. Donc, en 1832, la Nouvelle-Orléans était une cité fascinante dont les rives du puissant fleuve Mississippi accueillait une effervescence commerciale et culturelle sans pareil. Les docks, en activité constante, étaient le théâtre d'une agitation foisonnante, où se mêlaient des produits du monde entier, transportés par des navires en provenance de tous les horizons. Cette vitalité économique offrait une atmosphère cosmopolite à la ville, dont la population diverse et bigarrée comprenait Américains, Européens, Africains, Créoles et autres groupes ethniques. Malgré cette effervescence, blablabla, bon, je vais pas tout vous lire.
Ça
il
fait
a toujours
un peu
pas
documentaire fini. France 5.
Mais voilà, c'est ça. C'est clairement pas... Ah, t'as pas envie de lire ça dans un livre. Mais je pense que ça te donne quand même un certain nombre d'informations. Ensuite, donc, ça, je vous ai lu le premier paragraphe. Le paragraphe. Deuxième parle plus d'architecture. Ce qui est, je pense, assez intéressant pour avoir les infos typiquement... si on a envie de faire notre description de notre jeune homme poursuivant un loup-garou dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Et ensuite, ça parle de problèmes de fièvre jaune, apparemment, qui a frappé la ville à plusieurs reprises.
Donc, voilà, tu vois, tu apprends des trucs.
Voilà, il y a des... Je pense que... Comme aide à l'écriture, ça peut être intéressant. Ensuite, clairement, pas à sortir directement. C'est pas fait pour le copier-coller, quoi.
Ah ouais, non, pas à recracher.
Non, moi, ce que je voulais dire, c'est si on sort du côté littéraire pur, il y a aussi quelque chose dont on voulait parler ce soir. Et en plus, ça tombe bien, parce qu'on enregistre donc le 21 février, et ça date de la nuit du 20 février. Bah, c'est qu'on a appris que le magazine donc spécialisé en SF et fantasy américain, Clark's World, a fermé ses soumissions de textes, notamment pour des nouvelles ou des novellas, parce que justement ils sont submergés d'histoires en partie rédigées ou j'imagine entièrement rédigées, notamment avec ChatGPT, et qu'ils n'arrivent pas que comme le disait l'éditeur, le rédacteur en chef, en fait ils n'ont pas d'outils suffisamment performants d'après eux pour vraiment faire le tri, et que donc là ça devenait impossible à suivre.
Ouais, c'est assez terrible. Hein. Ils ont dit que aucune solution ne fonctionne vraiment, et que ce qu'ils pouvaient espérer de mieux, c'était à minima de réduire, d'avoir effectivement un logiciel qui puisse réduire et éliminer les textes les plus, on va dire les plus abusés, enfin les plus cramés, quoi. Mais sinon, effectivement, ils sont un peu désarmés par rapport à ça. C'est vrai que pour le coup, c'est assez flippant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Clark Swart disait également que mais c'était pas du tout la communauté SF Fantasy qui utilisait ça, en fait. C'est eux, ils se prennent des textes de ce que eux appellent les side hustle. Donc clairement des personnes qui cherchent à se faire un revenu complémentaire en envoyant des textes tout faits par ChatGPT je ne sais combien de maisons d'édition en se disant il y en a bien que ça va passer et
il faudrait leur dire que l'écriture rapporte. Ça rapporte pas hein,
mais c'est ça mais en même temps si tu veux tu fais ça puis après à côté tu tentes aussi autre chose
et puis oui, quelque part si ça t'a coûté une demi-heure de calcul de ton ordinateur du serveur OpenAI pour générer ton bouquin et ensuite le mail à envoyer, ça te coûte pas grand-chose ça te rapporte quasiment rien, c'est un quasiment rien plus que rien du tout. Donc comme ça t'a rien coûté.
Ouais. Après, ça dépend effectivement si tu touches. Si ça te rapporte 10 euros, c'est-à-dire que ça dépend effectivement combien de temps tu as passé dessus. En général, un temps assez peu conséquent, surtout quand tu compares au travail qu'il faut pour écrire un véritable texte. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, pour l'instant, Clark's World, faut quand même le préciser hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est un éditeur américain qui a quand même la réputation de répondre extrêmement vite aux soumissions, c'est-à-dire que vous leur soumettez le texte et en quelques jours, ils peuvent vous dire si ça les intéresse ou pas. Forcément, ça va mettre un peu de temps avant de se normaliser.
C'est ce qu'on appelle un déni de
service. Et voilà, attaque par DNS, exactement, une attaque par DNS IRL.
C'est ça.
si c'est pas un podcast, un podcast geek, je ne sais pas ce que c'est.
Ah oui, là.
pour aborder quelque chose qui a toujours trait à l'écriture, mais qui pour le coup va plutôt concerner l'écriture de scénarios, notamment de films. Alors je ne sais pas si vous avez vu en fait les initiatives de Netflix. Ce que fait Netflix, en fait, c'est que eux aussi, ils ont des bots et auxquels ils font regarder des centaines de milliers d'heures de films. Et ensuite, ils disent aux bots, bah, t'as vu 400 000 heures de films d'horreur, bah, maintenant, tu vas nous faire, propose-nous un film d'horreur, toi. Et ensuite, Netflix met ça en ligne. Et franchement, je vous recommande énormément d'aller voir ça. C'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Vous tapez Horror Movie Made by AI et vous allez tomber sur cette vidéo de 4 minutes 20 faite par un ordinateur. Alors, tout est fait par l'ordi, hein. La 3D, bon, qui est très sommaire, hein. Mais surtout l'histoire, les textes, les répliques, c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Donc, vous avez... que le résultat de 400 000 heures de visionnage de films d'horreur, ça donne un mec avec un masque de diable qui, en gros, demande à une jeune femme qui l'a kidnappé de répondre à des puzzles.
alors, flippant.
Voilà. Oui, après, dans les textes, si tu veux, c'est ça. Sur le coup, en fait, là, quand je te raconte ça, ça paraît, tu te dis, oui, bon, bah, ça va. Jusqu'à ce que, en fait, il commence à parler. Donc, la fille commence à dire « Oui, attends, je suis une travailleuse et je suis vierge. » Ok, d'accord. Tu sais, ça sort comme ça. Il y a un mur qui meurt et t'as son coworker qui arrive. À un moment, tu as également le détective qui arrive pour arrêter le méchant. Mais finalement, il glisse parce qu'en fait, il est fait de whisky. Ouais, il est fait de whisky, tu vois. C'est pas, il glisse sur du whisky. Il est fait de whisky. Il se relève et finalement t'as une baleine qui lui tombe dessus. Parce que pourquoi pas, une vraie baleine.
Finalement, on a bien vu des.
Et finalement, deux minutes plus tard, le détective se relève et en fait la baleine, bah, il se trouve que c'est son coéquipier. Donc, tu vois la baleine avec un chapeau et un flingue qui met en joue le méchant qui se prend finalement tout un tas de baleines qui lui tombent dessus. Enfin, bref,
Qu'est-ce que c'est que ce spoil?
Ah, c'est vraiment très drôle. Et vous avez ça avec... ils leur ont fait également écrire un épisode de Cobra Kai, mais également une rom-com. Enfin, c'est vraiment très, très drôle. Je vous recommande vraiment ça. Vous n'allez pas perdre votre temps. Bref, je me suis un petit peu emballé, mais tout ça pour dire que je trouve que ça reste quand même vraiment intéressant d'avoir de voir en fait à quel point pour l'instant, l'IA n'a pas encore vraiment la maîtrise, hein, de tout ce qui est subjectif. C'est parce que c'est vraiment ça au final. Et je pense que c'est le bon moment pour passer à la prochaine partie. Donc, du coup, est-ce qu'on a des exemples de la place des machines en tant que créateurs purs en littérature de l'imaginaire? Parce que ça, mine de rien, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Alors, il n'est pas avec nous, mais Foradan avait apporté sa contribution à notre plan. Donc, je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit qu'on trouve facilement des exemples en science-fiction de robots pensants, et s'ils pensent, on peut se demander s'ils ont une conscience et une capacité à créer et à apprécier leur création. Et en fantasy, il n'y aura vraiment qu'un seul exemple d'un auteur qui a réfléchi et finalement assimilé les machines avec la magie. Et selon sa correspondance et ses essais, la magie ou la machine, elles ont en commun l'immédiateté, c'est-à-dire réduire le temps entre l'idée et l'effet, mais aussi de risquer de développer le désir de s'affranchir des limites au prix de devenir dépendant de cette capacité qui donne un tel pouvoir, allant jusqu'à citer les magies harmonieuses, naturelles, des elfes où les cas extrêmes produisent des dispositifs externes aux dépens des talents internes. Oula, cette phrase est longue, Foradan. Que ce soit les joyaux ou les anneaux. En fait, là, Foradan fait quelque chose de très long pour vous parler de Tolkien.
Ce fameux auteur, si vous avez vu.
Donc c'est de lui dont on parle. Donc, si vous voulez, comme un grand pouvoir peut corrompre même les bonnes intentions, l'auteur, Tolkien, met en garde dans son sous-texte contre une technologie qui peut ruser, qui peut nous séduire, nous rendre dépendants, hein, l'anneau, hein, bien entendu, mais également tout ce qui fait que Saruman est séduit, hein, c'est aussi ça, au point de se faire passer pour le monde réel, alors que c'est qu'une création secondaire dans un monde primaire. Rien n'est totalement mauvais au début ou dans les intentions, concrètement. Voilà. Donc, le texte que je vous ai lu, Foradan ne cite pas Tolkien. Hein, c'est moi qui vous le précise.
Enfin, vu que c'est tiré en partie du dictionnaire Tolkien,
c'est tiré du dictionnaire Tolkien, article machine.
Avec une majuscule.
Voilà. Avec une majuscule. Et également du hors-série Philosophie Magazine sur Tolkien, qui est paru l'an dernier.
Je peux me tromper, mais je pense qu'on parlait bien de Tolkien. Hein.
Oui. Ça me paraît assez clair.
Et puis venant de Foradan, ce serait pas complètement absurde.
En plus.
Mais si je puis me permettre, je le trouve quand même relativement réducteur en parlant que de Tolkien, parce que finalement, tout le steampunk a une relation avec la machine.
Ah, c'est plus une.
Qui est assez régulier.
Ouais, c'est une icono, quoi. Enfin, c'est une iconographie.
La question de la conscience.
C'est ça. J'ai lu des recueils de nouvelles qui se passaient sur la Lune dans une cité. Bon, je ne vais pas donner beaucoup de détails. Mais globalement, il y a des androïdes qui ne s'appellent pas androïdes, mais globalement, c'est ça.
Les Chastelières et leur série Philosophie Magazine.
Il y a ce problème de conscience, finalement. Quelque part, dès qu'il y a des robots qui soient animés par une technologie ou par de la magie ou autre chose, on se pose souvent cette problématique de conscience
Vous avez ça dans La fille automate, hein, de Paolo Bacigalupi, hein, c'est pareil. Avec la fameuse clé de son cœur que son créateur a et qu'elle espère avoir et qu'il refuse de lui donner, ou en tout cas il trouve toujours une excuse pour pas lui donner.
Très concrètement, mais ça peut être, tu peux faire ça avec plein de choses, hein, il suffit de plein de récits différents, mais c'est vrai que la question de l'intelligence artificielle, que ce soit en SF, en steampunk, ou dès que tu, enfin, soit vraiment des robots, des automates, appelle ça comme tu veux, c'est tout de suite une source de, justement, de questionnement et donc de scénario au potentiel qui est un peu sans fin, hein. Par exemple, si, imaginons, je sais pas, moi, un automate ou un robot dont la base de données, pour reprendre des termes modernes, aurait été nourrie de toutes les compositions de tel ou tel compositeur, justement, défunt. Si le robot ou l'automate compose un nouvel opéra ou une nouvelle symphonie en se basant là-dessus, qui est l'auteur? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le défunt? Voilà, par exemple, tu peux avoir des tas de cas de figure. Ou des cas de conscience, c'est le cas de le dire.
Attends, redis-moi ça. Ouais, j'écris, je mets ça dans ChatGPT et je l'envoie l'intégralité des.
Vous avez déjà utilisé ce synopsis pour quelque chose, alors merci.
J'envoie à tous les éditeurs online qui existent et c'est bon.
Non, mais c'est clairement un questionnement, effectivement, qui nourrit aussi les auteurs. Depuis longtemps, je pense, hein, depuis la création de, je sais pas moi, depuis Metropolis. Ou...
Mais attendez, vous n'avez pas entendu parler, messieurs, de cette personne qui travaillait sur quelle intelligence artificielle elle était, et qui s'est mise en fait à discuter avec l'IA jusqu'à vraiment se dire, mais en fait, elle est consciente, c'est une vraie personne.
Non.
C'est arrivé l'an dernier, en fait, si ça vous intéresse, chers auditeurs, je vous incite à retrouver la vidéo de Sylvequin qui en parle très bien sur YouTube. Donc c'est vraiment une discussion qui s'est faite entre un employé, je sais pas si c'est pas un ex-employé de Google, qui du coup s'est mis à discuter avec cette fameuse IA et au départ était assez pragmatique. Finalement, du coup, à la fin, elle n'était plus du tout, ou en tout cas, c'est vraiment mis à dire que voilà, l'IA avait vraiment une.
Ça, c'est un collègue qui s'est assis à un clavier et qui lui a fait croire.
Peut-être. Écoute, est-ce que c'est un
la légende raconte
la légende dit que Est-ce que c'est un peu comme Jeanne d'Arc, tu vois? Est-ce que ses voix, c'était finalement ses voisins qui étaient planqués dans l'arbre? Voilà.
Mais bon, on tout ça nous ramène à l'éthique, chers amis.
Tout à fait.
Oui, pour revenir sur l'éthique, je te laisse commencer, Aka.
En fait, oui, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un problème générique dans l'IA utilisé dans la création. C'est la gestion du droit d'auteur. Mais, comme on le disait, l'IA, ça n'invente rien, elle ne fait que apprendre et retransmettre sans forcément comprendre et sans créer en particulier. Et du coup, pour apprendre, elle se base sur une base de données, sur que ce soit des images ou des textes qui sont, eux, pas forcément libres de droit. Et du coup, comment gérer ces droits, à qui vont les droits, si c'est à la personne qui a écrit le prompt, comme on a dit, à la personne... à l'intégralité des personnes, quelque part, qui ont servi à l'apprentissage de l'IA, de base à l'apprentissage de l'IA. C'est quelque chose qui est finalement extrêmement complexe, et c'est le problème éthique principal dans l'utilisation commerciale de l'IA qu'on peut voir.
Tout à fait. Oui, oui Gilo.
Oui, bonjour, Maître Chastelier, avocat au barreau de Lille. Je voudrais rebondir sur cette remarque. Est-ce que ça ne serait pas... Parce que quand tu dis que l'intelligence artificielle a besoin d'une base de données et que certains éléments de cette base de données ne sont pas forcément libres de droit, est-ce que quelqu'un qui se ferait sa culture littéraire en étant abonné à la bibliothèque et qui après écrirait, c'est pas un peu comme quelqu'un qui pioche dans une base de données pour...
Bien sûr, bien sûr.
On peut le voir comme ça, ouais.
L'inconvénient, c'est que... Quoi ? La différence, c'est que l'esprit humain, en tout cas a priori, est capable de création. Et que du coup, à partir d'une base de données issue d'une bibliothèque ou de films qu'il a regardés ou de choses comme ça, il va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors, avec plus ou moins de succès, hein, on voit des choses où justement, on se dit, y a pas grand-chose de nouveau. Et du coup, par cette capacité qu'on a, ça transforme quelque chose qui serait quelque part du plagiat en quelque chose qui est une création plus ou moins originale. Et d'ailleurs, si ce n'est pas assez original, on accuse de plagiat. Et c'est ça la différence, finalement. L'inconvénient de l'intelligence artificielle, c'est qu'en tout cas, dans l'état où elle est, elle n'est capable que de plagiat. Alors parfois, du plagiat extrêmement élaboré, et en prenant des morceaux choisis dans différentes œuvres, finalement, puisqu'elle ne fait pas forcément de distinction entre les œuvres, ça va agglomérer tout ça, mais quelque part, il ne crée pas.
Et tout ça, c'est très intéressant. Ça m'évoque un livre qui n'est pas sorti en français, qui s'appelle « Still Like an Artist » de Austin Kleon, qui est un petit livre qui est assez assez chouette, assez inspirant d'ailleurs, qui parle en fait de comment créer du contenu qui nous est propre à l'ère numérique. Simplement à l'ère numérique, hein, comme on le dit depuis le début de ce podcast, on a un choix qui est pléthorique, et du coup, ce livre parle de ça, de comment arriver à développer tout son potentiel créatif, à s'exprimer sans plagier, mais sans non plus s'interdire totalement de regarder ce qui se fait ailleurs, parce que c'est normal, parce qu'on va forcément le faire à un moment donné, et parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, est inspiré, est une inspiration de près ou de loin. Je vous recommande vraiment ce livre, si vous lisez en anglais, c'est extrêmement intéressant. En plus, c'est hyper court.
Un bon argument.
Still Like an Artist, de Austin Kleon.
Oui, en effet, clairement, l'IA ne fait que mettre en avant quelque chose qui est presque déjà problématique. C'est notre accès à l'information qui fait que c'est de plus en plus dur de faire quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec l'inspiration des scénaristes hollywoodiens, hein, pour ceux qui sont pris, parce que je pense que, par exemple, le dernier Avatar a dû être a dû être fait par ChatGPT, hein, et encore, je pense qu'il se serait mieux débrouillé.
Mais... Il voulait la sortir. Ouais, il voulait sortir.
Je l'avais depuis le début, il me la fallait. Mais c'est vrai que, bah, on voit qu'il y a un manque d'inspiration. On fait des 2, des 3, des numéros X de séries qui ont bien fonctionné. Et il y a de moins en moins de trucs vraiment originaux.
Bah, c'est sûr que tout le monde ne sera pas d'accord, mais j'imagine que James Cameron a juste dit bah, « Refais-moi le scénario d'Avatar, mais dans l'eau.
» C'est ça. Et garde les voilà. Petites méduses volantes, mais dans l'eau.
Ça, il fallait les remettre dans l'eau. En fait.
Ah, vous m'avez donné trop envie de le voir d'un coup. Là. Mais on aura ça, en fait, je pense, dans, à mon avis, hein, dans la décennie qui arrive. Peut-être là on parle de la littérature. Parce que je pense qu'on aura des exemples de livres publiés forcément par ChatGPT ou par une autre IA encore plus performante. On aura peut-être aussi des séries. Peut-être qu'on aura Netflix qui se mettra effectivement à produire des scénarios de séries. Et vous allez peut-être me dire, c'est déjà le cas quand on voit qu'effectivement une majorité de séries sur Netflix sont un peu toujours calquées sur le même moule. Mais ça arrivera peut-être. Et peut-être des scénarios de films ou même des choses qui seront peut-être carrément expérimentales. J'y pensais pendant qu'on débattait durant ce podcast. Mais peut-être qu'on aura un jour un auteur qui se dira, bah tiens, moi je vais écrire sur ce fait-là, quelque chose qui est vraiment arrivé, je dis n'importe quoi. Moi je sais pas, je vais, moi en tant qu'auteur, je vais parler du meurtre qui est arrivé au 15 rue Le Pic, et moi je vais l'écrire. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé, donc moi je vais l'écrire, et je vais aussi en même temps demander à ChatGPT de l'écrire. Et je vais publier les deux. Et comme ça, les gens vont pouvoir voir la différence. Ou alors, je le mets dans le même bouquin, ce sera plus pratique.
Ouais, dans ces cas-là, je vais
avoir deux versions. Ouais, c'est exactement, parce que j'étais en train de me dire, ouais, je vais publier deux, mais ça faisait un peu version... ça faisait un peu comme Pokémon, sauf que bon, là, t'as la version ordi, la version humaine. Mais effectivement, publier les deux fois la même chose, ça va être redondant. Je pense que ce sera surtout une sorte d'expérience littéraire, mais qui pourrait être, effectivement, qui, je trouve... peut avoir son intérêt, à savoir bah, comparer comment un être humain va relater quelque chose à la différence de l'IA. Ça n'aura peut-être son intérêt que pour cette décennie-là, peut-être qu'après ça ne l'aura plus. Mais voilà, c'était la réflexion que je me suis fait au cours de ce podcast, messieurs.
Du coup, tu penses déjà à notre avenir?
Ben oui, effectivement. Concrètement, est-ce que c'est la fin du monde tel que nous le connaissons? Est-ce que quid de l'IA dans le futur, que ce soit le futur proche et moins proche? Ah, personnellement, à mon sens, l'avenir vers lequel tout cela nous dirige, au moins pour la culture, hein, mais pas uniquement. Moi, ça m'évoque beaucoup, beaucoup les assistants personnels de Blade Runner 2049. J'y reviens très, très souvent à cette idée. Hein. Je ne me demandais pas pourquoi, mais c'est vrai que je pense qu'on va se diriger au fur et à mesure vers des intelligences artificielles qui vont être de plus en plus vont savoir répondre de plus en plus précisément à nos besoins et savoir, en fait, par exemple, tu es, encore une fois, pour reprendre l'exemple de l'aspirant auteur, si tu es aspirant auteur, tu pourras très bien avoir une IA qui sait que tu es aspirant auteur, que tu as envie de publier ton premier bouquin, tu es amateur ou amatrice de fantasy, c'est ça que tu as envie d'écrire, et que tu as un style littéraire, d'après ce que lui a vu en se connectant à ton traitement de texte, un certain style littéraire, je sais pas, un peu fouillé, un peu complexe. Tu es plutôt amatrice, je sais pas, n'importe quoi, d'écologie. Tu as une passion pour l'Amazonie. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Bah, en fait, il pourra tout simplement peut-être t'aider à faire une espèce de, au-delà de la synthèse, vraiment t'assister complètement, quasi complètement, dans la rédaction de ton futur bouquin, en tant qu'assistant, mais en tant qu'assistant, oui, même, ultra personnalisé.
Même là,
personnellement, moi, c'est, Oui.
Même là, ça laisse pas de place à la surprise. Enfin, toi, tu dis, genre, j'ai analysé que ta passion, c'était la forêt amazonienne. Et donc...
Ah non, mais il pourra toujours, en fait, te proposer des choses.
Oui.
Il pourra toujours te proposer des choses. Et tu ne seras jamais obligé d'accepter. En tout cas, je pense que c'est personnellement l'avenir qui à mon avis, en tout cas, ça y ressemble. Enfin, le au niveau des GAFAM, ça a l'air d'être un peu ce vers quoi on se dirige. Mais bon, vouloir être prédictologue, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai pas je n'aurais pas l'outrecuidance de vouloir me prétendre Nostradamus. Mais simplement, je pense pas que ça serve à quelque chose d'être pessimiste par rapport à l'avenir qui se dessine avec les IA, mais je suis pas non plus optimiste, je suis juste cyniste. Mais oui, Gilo.
Bah après, oui, moi j'avoue, je tendance à être plutôt carrément, disons, le pessimiste. C'est vrai que bon, notre sujet c'était vraiment l'IA et l'édition, donc on n'avait pas forcément parlé de ça, mais quand tu vois aussi maintenant que tu as des problèmes avec les doubleurs pour les animés. Il y a plusieurs doubleurs américains d'animés ou de jeux vidéo, hein, qui ont précisé que, attention, il y a des programmes qui peuvent imiter les voix. Et en fait, si tu peux pas te payer tel doubleur, c'est un peu comme le dessin, tu vois, comme on disait tout à l'heure avec Marc Simonetti. Si tu peux pas te payer une couve de Marc Simonetti, tu vas utiliser un programme qui va te faire une couve à la Marc Simonetti. Et là, c'est pareil, il y a déjà des doubleurs qui se plaignent, que leurs voix sont copiées-collées, quoi, en fait.
On a vu l'utilisation du deepfake pour refaire Mark Hamill jeune ou dans les
Star Wars. Mark Hamill jeune, ça va, c'est pas pour des sujets scabreux.
Ben oui, non, mais voilà, c'est ça. Et puis là, c'était avec l'autorisation de l'intéressé, etc. Mais c'est vrai qu'on peut faire des trucs assez incroyables avec ça.
Après, ça reste des outils, à voir ce que l'homme ou la femme qui les utilise en fait.
Ça restera toujours des outils, quoi qu'il en soit, de toute façon, ça arrivera, et avec des conséquences, parfois des choses, peut-être des conséquences aussi inattendues dans le positif, hein, mais effectivement, oui, on aura des choses qui, effectivement, ce sera plus facile pour avoir du contenu pas terrible. Ça, je pense qu'on est assez d'accord avec ça, mais que ce soit... effectivement, des articles, des vidéos, tout ce qui va être scripté de type un peu basique, qui existe déjà, hein, par ailleurs, ça va être... Internet risque d'être encore plus inondé, Internet et pas que, hein, mais la culture risque d'être encore plus inondée par ça. Pour le coup, effectivement, les œuvres qui arriveront à se démarquer de ça... De par leur originalité, par tout ça, auront encore, à mon avis, une pièce à jouer. C'est très, très, très classique, hein, ce que je dis, bien évidemment. Mais,
d'ailleurs, ton raisonnement a sûrement été créé par ChatGPT.
Mais justement, comme je vous ai dit, on ne fait que déclamer ce que ChatGPT nous a...
C'est ça, exactement.
nous a écrit.
D'ailleurs, on ne le déclame pas, on a copié nos voix pour que ChatGPT le dise lui-même.
Nous ne sommes pas là.
Voilà. Nous ne sommes pas là, d'ailleurs. Nous ne sommes que des intelligences artificielles. Nos haters pourront le dire également. Je l'ai toujours su. Messieurs, je pense qu'on a brossé assez large sur cette thématique passionnante, et dont on a, à mon avis...
En perpétuelle évolution.
En perpétuelle évolution, et dont on n'a pas fini... pas fini de parler, et qui va, à mon avis, beaucoup nous surprendre.
Tout à fait.
Si, chers auditeurs, vous avez également un avis, hein, sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à venir nous le donner en forum, mais également à venir...
Si vous n'êtes pas un bot. Hein,
si vous n'êtes pas un bot, oui, s'il vous plaît, parce que sinon, vous serez effacé automatiquement. Nous avons une armada de... nous, en tant que modérateurs, ça nous fait du boulot. Donc voilà, n'hésitez pas à venir donner votre avis sur le forum du site elbacking.net, également à venir vous interpeller sur nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et si vous avez envie de soutenir le podcast elbacking.net, n'hésitez pas à venir lui mettre 5 étoiles sur votre appli d'écoute préféré, à nous laisser également un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous booste, hein, ça nous aide encore plus à continuer, ça nous aide à continuer. Et si vous souhaitez faire un don à Elbakin pour nous aider également à maintenir la lumière allumée.
Oui, parce que Deeple, c'est pas gratuit. Hein, donc,
parce que Deeple... Et ChatGPT, bien entendu, et ChatGPT va avoir sa version payante hein, également.
Ouais, donc, oui, forcément.
Donc voilà, si vous voulez nous aider, hein, alors pas à payer pour l'IA, bien entendu, mais à nous aider à simplement un don sur la plateforme Hello Asso, sur la page d'accueil du site Elbakin.net. Ça nous aide beaucoup et on vous remercie également de votre soutien. Merci Gilo, merci Aka.
Merci à toi et puis merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci
et à bientôt.
Et on vous retrouve pour le prochain épisode.
À bientôt.
Du podcast Elbakin.
Salut. Ciao.
À moi l'aventurière qui doit